Vous écoutez Europe 1, il est un tout petit peu plus de 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, c'est une information Europe 1. Les règlements de compte entre bandes rivales ont augmenté de 8% depuis le début de l'année. Comment expliquer cette poussée de violence? Élément de réponse des 13h20 avec vous au 01 80 20 39 21. Venez réagir. La piste du crime d'honneur qui se précise après la mort d'un adolescent passé à tabac jeudi à Viry-Châtillon. Le point sur les derniers éléments de l'enquête dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi la mère d'Avallon en garde à vue. 70 kilos de cannabis ont été retrouvés à son domicile hier. Le frère de cet élu de la République était connu pour trafic de stupéfiants. Et sinon, le marché de l'immobilier reprend tout doucement des couleurs. Après la baisse des taux, le prix du mètre carré lui aussi diminue. Et puis, elles sont de retour et ça pique, les allergies au pollen. Comment souffrir le moins possible? Europe 1 vous dit tout, alors rendez-vous à la fin de ce journal. 13h02, Géraldine Hamon, la tendance météo pour l'après-midi.
Averse orageuse entre le sud-ouest et les côtes de la Manche. Beaucoup de vent aussi, c'est le programme pour ce lundi après-midi. Le Finistère est en vigilance orange, vent fort et vagues sur Marcion. Une vigilance orange crue aussi est en cours en Seine-Maritime et dans l'Eure. Il fera 14 degrés à Brest, 21 à Paris, jusqu'à 28 degrés à Grenoble. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cet indicateur inquiétant. Depuis le début de l'année, les RICS ont augmenté de 8%. C'est une information Europe 1. Jean-Baptiste Marty, comment expliquer cette recrudescence des règlements de compte entre bandes rivales qui inquiète les autorités?
Eh bien, à l'origine de ces rixes, essentiellement des mineurs, dans 80% de ces violences, ils s'affrontent sur fond de trafic de drogue, mais pas que, il y a aussi les rivalités, comme dans le Val d'Oise à Sannois le 13 janvier dernier, une vingtaine de jeunes encagoulés, venus de la ville voisine de Franconville, ont laissé pour mort un mineur de 17 ans sur le trottoir, une vengeance d'une précédente bagarre. Des rixes essentiellement franciliennes, hein, 85% sont commises en Ile-de-France, notamment en Essonne, ce qui inquiète Alexandre Touzé, vice-président du conseil départemental en charge des questions de sécurité.
On a une génération très jeune là qui monte avec une très forte culture de violence. Tous les procureurs de la République qui viennent ici sont surpris du niveau de violence et du transport assez régulier d'armes par destination, de béquilles, de marteaux, de sabres.
Les armes sont donc omniprésentes dans 9 rixes sur 10. Des expéditions punitives favorisées par les réseaux sociaux, vitrines de ces règlements de compte et que le gouvernement aujourd'hui ne parvient pas à contrôler.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Une violence qui ne cesse de faire l'actualité ces derniers jours. À Viry-Châtillon en Essonne, après la mort vendredi du collégien tabassé non loin de son collège, 4 personnes ont été mises en examen pour assassinat. Thibaut Hu, vous êtes à Viry-Châtillon pour Europe 1. L'émotion reste vive ce matin et c'est désormais la piste d'un crime d'honneur qui est étudiée par les enquêteurs.
Oui, c'est ce qu'on apprend grâce aux premiers éléments de l'enquête. En garde à vue, un frère et son petit frère racontent avoir voulu défendre leur sœur de 15 ans, qui correspondait avec des jeunes de son âge, sur, je cite, des sujets relatifs à la sexualité. Le procureur a indiqué que ces deux suspects avaient craint pour la réputation de leur famille. Ils auraient donc d'abord demandé à ces garçons de ne plus rentrer en contact avec elle, avec leur sœur. Mais Chemseddine, lui, aurait continué, s'en serait même, d'après eux, vanté. Et c'est ce qui aurait mené ces deux frères, accompagnés de deux autres individus, à lui demander des explications devant le collège, le ton serait monté et selon eux, l'adolescent aurait chuté. Depuis le drame, les habitants de Viry-Châtillon n'en reviennent pas, comme Michel, ce jeune habitait le même quartier que la victime.
C'est un quartier assez calme, surtout d'apprendre que c'est des personnes qui venaient de notre propre quartier qui s'en prennent à un jeune, c'est assez choquant. Il vient juste du collège, il vient de sortir des cours et on apprend un meurtre comme ça, c'est choquant.
Alors l'enquête se poursuit et le ministère public a requis le placement en détention judiciaire des 4 jeunes. Et Viry-Châtillon a de nouveau été le lieu d'une rixe ce dimanche soir. Un autre jeune de 15 ans a été agressé et blessé par des coups de poing, des coups de béquille. Ses jours ne sont pas en danger et à ce stade, il est impossible d'établir un lien entre cette bagarre et la mort de Chemseddine.
Thibaut Hu en direct de Viry-Châtillon pour Europe 1. Alors après ce drame absolu, la piste d'un crime d'honneur pour laver la réputation d'une famille interpelle. Est-ce que vous trouvez ce scénario insupportable, archaïque? Venez réagir, Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé, les 13h06, la suite du journal avec vous, Céline Géraud.
Et l'actualité de ce lundi 8 avril, c'est aussi cette découverte spectaculaire des gendarmes au domicile de la maire de la commune d'Avallon dans l'Yonne. 70 kilos de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 7000 euros en espèces et une vingtaine de lingots d'or ont été saisis. La mère d'Hiver Gauche, Jamila Absaoui, a été placée en garde à vue, ainsi que 6 autres personnes, dont 2 de ses proches. L'enquête devra déterminer le degré d'implication de l'élu de la République dans ce trafic de stupéfiants. Le député Renaissance Charles Rodwell a réagi à cette interpellation dans Europe 1 Nuit Weekend.
C'est absolument lamentable. Tous les éclaircissements sur cette affaire doivent être faits et je pense que cette mère va devoir être condamnée. Car évidemment, la détention de drogue est illégale dans notre pays. Et quand vous êtes maire d'une ville et que vous vous abaissez à ce type de pratique, ben je reste sans voix, si ce n'est la condamnation la plus forte et la plus absolue de ce type d'agissement. Le trafic de drogue est une gangrène, est un cancer d'une partie de nos quartiers et de notre société, contre lequel le combat sera long. Ça y est, il a été entamé de la manière la plus forte qu'il soit, puisqu'il me semble que plusieurs milliers d'individus ont été interpellés. On voit bien que le trafic a été d'ores et déjà déstabilisé. Il serait fou de crier victoire trop tôt, car ce n'est que le début.
Charles Rodwell, député Renaissance, invité d'Antoine Bienvaux dans Europe 1 Nuit Weekend. 13h07, je vous parle maintenant de l'affaire dite du violeur à la trottinette. Il était traqué depuis plusieurs semaines. L'individu suspecté d'être l'auteur d'une série d'agressions et de viols dans la région grenobloise a été placé en détention provisoire. Jean-Luc Boujon, le procureur de Grenoble, a donné certaines précisions ce matin sur le suspect.
Oui, ce suspect est un homme de 22 ans, bien inséré socialement, avec une petite amie, ancien vendeur de trottinettes, qui a été confondu par son ADN prélevé après le viol d'une de ses victimes. C'est d'ailleurs le seul fait que le jeune homme a reconnu en garde à vue, alors qu'il a été mis en examen pour un autre viol, une tentative de viol, une tentative d'agression sexuelle et 2 faits de violence, le tout en seulement 1 mois et demi. Alors cette trottinette, elle était fondamentale dans le mode opératoire du violeur présumé, pour suivre puis faire chuter ses victimes. Elle l'a été tout autant pour les enquêteurs qui étaient sur sa trace, explique le commissaire Jordan Courby de la PJ de Grenoble.
On a eu une photo qu'on a pu extraire de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection de l'agglomération grenobloise. Vidéo qui nous a permis de travailler sur un type de trottinette spécifique. Type qui nous a permis du coup de resserrer l'étau sur un individu, un suspect probable.
Alors ce suspect a été écroué hier soir. Pour son avocat, maître Arnaud Lévy-Soussan, sa participation aux 7 faits qui lui sont reprochés n'est pas établie du tout.
Il me paraît à ce stade du dossier très très prématuré de décréter que ce serait un violeur ou un agresseur sexuel en série. Je pense que le moment venu, il y aura peut-être un tri qui sera effectué sur toutes les infractions qui lui sont reprochées. Les expertises psychiatriques et psychologiques seront déterminantes pour comprendre si on a affaire à quelqu'un qui a une pathologie mentale ou si c'est une personne qui a été dépassée par sa consommation d'alcool.
Alors des investigations sont encore en cours, a indiqué le procureur, d'autant qu'une nouvelle plainte a été déposée et que 2 autres victimes pourraient elles aussi le faire dans les prochains jours.
Jean-Luc Boujon en direct de Grenoble pour Europe 1. Allez, on reste ensemble dans quelques instants. Le premier débat de la campagne européenne ce soir entre Valérie Ayé et Marion Maréchal. Tous les opposent. Les crises d'allergie au pollen, comment souffrir le moins possible. Et puis le marché de l'immobilier qui retrouve quelques couleurs avec la baisse du prix du mètre carré. Europe 1 vous informe, alors restez bien avec nous.
Il est 13h10, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.
Europe 1, 13h.
Il est 13h11 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez le journal de Céline Géraud.
C'est le premier grand rendez-vous de cette campagne européenne. Valérie Ayé et Marion Maréchal débattent ce soir à 21h sur Europe 1 et CNews. Les 2 candidates échangeront notamment autour du pouvoir d'achat et de l'insécurité, tout en présentant chacune leur vision de l'Europe. Alexandre Chauveau, c'est un rendez-vous crucial pour ces 2 candidates que tout oppose.
Oui, d'abord pour Valérie Ayé, rattrapée par Raphaël Glucksmann et distancée par Jordan Bardella dans les sondages. Elle compte sur ce débat pour remobiliser son électorat. Elle revendique clairement son attachement à l'Union européenne et met en avant la gestion par l'Europe de l'achat de vaccins contre le Covid ou le plan de relance européen. La candidate de la majorité présidentielle voit également l'Union comme un atout dans la gestion de la politique migratoire ou agricole du continent. C'est tout l'inverse de son opposante ce soir, Marion Maréchal, conservatrice assumée, opposée à une Europe qu'elle juge technocratique. Elle place la campagne sur le plan civilisationnel et fait de la lutte contre l'islamisme l'islamisation du continent son principal combat. La candidate de Reconquête se dit favorable à une Europe des nations, comme son alliée italienne Giorgia Meloni. Elle aussi subit pour l'instant l'envolée sondagière de Jordan Bardella et compte sur cette opposition pour faire entendre sa voix à droite. Les deux candidates ont finalement un intérêt commun ce soir, s'imposer auprès de leur électorat respectif comme une alternative au Rassemblement national.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et rendez-vous donc ce soir en simultané sur CNews et sur Europe 1 dès 21h. 13h13, le marché de l'immobilier reprend des couleurs. Après la baisse des taux, les prix commencent à leur tour à baisser, en particulier dans la capitale. Selon Century 21, le prix du mètre carré a diminué de 9% en moyenne à Paris depuis le début de l'année. De quoi permettre à certains Français de relancer leur projet d'achat, même si Margot Faudéré, la plupart préfèrent encore attendre que la baisse s'amplifie.
Depuis quelques semaines, le téléphone s'est remis à sonner dans cette agence immobilière en plein cœur du quartier latin. Les visites s'enchaînent et elles débouchent parfois sur des offres, comme l'explique Thomas Blanchot, le directeur associé de l'agence Century 21.
Sur le bureau, il y a 6 dossiers en cours. Au mois de décembre, sur le bureau, vous seriez venu, il y avait 0 dossier.
Derrière cette reprise, il y a la baisse des taux et celle des prix de l'immobilier, moins 10% en moyenne dans le 5e arrondissement depuis le début de l'année. Une tendance qui a permis à certains Français de revenir sur le marché, même si d'autres préfèrent attendre.
Ce qu'on a actuellement, c'est ce qui sont forcés, les divorces, les naissances ou les mutations. Celui qui voulait simplement avoir 10 mètres carrés de plus, lui, il attend encore.
Les primo-accédants aussi patientent le temps que les taux et les prix baissent davantage, mais ce ne sera pas avant la fin de l'été, selon Thomas Blanchot, d'autant plus qu'un autre obstacle limite toujours les transactions dans la capitale.
C'est l'arrivée des JO, ça bloque surtout certains acheteurs qui vont attendre septembre pour pouvoir acheter et faire des travaux.
Une fois l'événement passé, il a bon espoir que les prix moyens dans ce quartier repassent sous la barre des 11 000 euros le mètre carré et que le marché reparte pour de bon en début d'année prochaine.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. On l'a appris il y a une heure, l'ancien trois quarts centre du 15 de France, André Boniface, est décédé à l'âge de 89 ans. André Boniface avait porté le maillot du 15 de France à 48 reprises, de 54 à 66, remportant à 4 reprises le tournoi des 5 nations.
13h15 sur Europe 1, ça pique, ça démange, ça fait éternuer. Si vous faites partie des 25% de Français allergiques au pollen, eh bien vous vivez un enfer ces derniers jours.
Oui, parce que c'est la période la plus difficile, selon les spécialistes, qui souligne que ce sont principalement les pollens de bouleau qui provoquent ces allergies. Les antihistaminiques sont souvent insuffisants et selon les prévisions, 50% de la population sera allergique en 2050. Si, si. Alors comment souffrir le moins possible, Yasmina Katou?
Lorsque vous êtes à l'extérieur, il faut couvrir un peu toutes les zones sensibles de votre visage. D'abord vos yeux, gardez toujours une paire de lunettes de soleil sur le nez, et ce, même si le ciel est gris, cela empêche les pollens de se coller sur les yeux. Autre accessoire utile, le masque chirurgical ou FFP2, c'est ce que conseille Julien Côté à ses patients. Il est le vice-président de la Société française d'allergologie.
Le masque va faire en sorte que les pollens ne vont pas rentrer dans le nez, ne vont pas rentrer dans la bouche. Et donc s'ils ne rentrent pas dans le nez, ils ne pénètrent pas la filière respiratoire, donc il n'y aura pas de rhinite, pas d'asthme, etc.
Par ailleurs, évitez de porter écharpes et foulards qui sont des nids à pollen et augmentent vos symptômes. Il faut aussi prendre quelques précautions en rentrant chez soi.
Il faut avoir un espèce de sas de décontamination où on se dit, quand je rentre, mon manteau, il reste dans l'entrée, mon foulard, ça reste dans l'entrée et je ne vais pas le mettre dans le salon, je ne vais pas l'amener dans la chambre. Je vais faire attention à ne pas disséminer du pollen partout.
Enfin, n'oubliez pas de vous laver les cheveux tous les soirs pour ne pas répandre les pollens sur votre oreiller.
Les bons conseils et les bienvenus de Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. 13h16, un point sur les marchés avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com, un marché qui reprend des couleurs.
Oui, c'est du vert pour le CAC qui a été secoué vendredi avec une chute de 1%. Il reprend 0,7%, 8115 points. La semaine sera chargée sur les marchés avec un rendez-vous important jeudi, la réunion de la Banque Centrale Européenne. En attendant, ça bouge pour Atos. L'action s'envole de 23%. La société d'investissement française Butler rejoint le plan de sauvetage du groupe technologique Atos qui est en très grande difficulté financière. C'est du vert aussi à Paris pour l'automobile. Renault bondit de 1,7%, plus 1% pour son concurrent Stellantis. Et puis ça monte aussi pour les indices en Europe. Francfort gagne 0,6, plus 0,1 pour Londres, plus 0,5 pour Milan, plus 0,7 à Paris pour le CAC 40, 8115 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Et on fait un point sur la météo maintenant avec vous Géraldine Hamon. C'est orageux sur une grande partie du pays avec beaucoup de vent en Bretagne.
Exactement Céline, en effet, puisque la dépression pyrrhique génère un fort vent qui souffle jusqu'à 90 km/h en rafale, voire 110 km/h sur les côtes. Et en fin d'après-midi et en soirée, ce vent se dirige à l'ouest avec des rafales qui vont atteindre des 130 km/h et 100 km/h dans l'intérieur. Sur la façade atlantique, le vent d'ouest souffle aussi jusqu'à 80 km/h, puis ces rafales balaient toute la moitié ouest du pays dans la soirée. Ailleurs, des averses se déclenchent aussi. Elles sont souvent orageuses, comme je vous le disais, des Pyrénées à la Normandie et à la frontière belge, avec un risque de grêle et de fortes rafales. Localement, une vigilance orange, vent fort et vague submersion est en cours sur le Finistère. Et pour les températures, il fera 14 degrés à Brest, 17 à Nantes, 18 à Caen et au Havre, 20 degrés à Nice, 21 à Paris, 23 à Bordeaux. On attend 25 degrés à Nîmes, 26 à Ajaccio, jusqu'à 28 degrés à Grenoble. Et demain, le temps sera instable avec des averses parfois orageuses sur de nombreuses régions.
Merci Géraldine Hamon, c'était la météo et nous on est ensemble jusqu'à 14h. On vous accompagne, Europe 1 vous informe et décrypte l'actualité. Alors dans quelques instants, avec mes chroniqueurs politiques Gérard Carrérou, Olivier Dartigol, on va parler de cette hausse des règlements de compte en France depuis le début de l'année, la piste d'un crime d'honneur à Viry-Châtillon, une élue de la République en garde à vue dans Lyon et puis Israël qui retire une partie de ses troupes de la bande de Gaza. Nous sommes à un pas de la victoire, c'est Benjamin Netanyahou qui l'annonce. Venez réagir sur l'actualité 01 80 20 39 21. Europe 1 13h vous donne la parole.
Europe 1, il est 13h19, vous écoutez Céline Giraud.
Europe 1 13h.
De 13h à 14h avec vous, Céline Giraud et vous, auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, pour réagir à l'actualité que vous décryptez aujourd'hui avec vos deux chroniqueurs, le journaliste Gérard Carrérou et le chroniqueur politique Olivier Dartigol avec nous en studio.
Bienvenue à bord, les amis.
Bonjour. Bonjour.
C'est lundi, c'est reparti. Je compte sur votre sagacité pour décrypter l'actualité qu'on va dérouler ensemble. Alors, tiens, je vais commencer par cette information Europe 1. Les RICS ont augmenté de 8% depuis le début de l'année par rapport à la même période l'an dernier. Des violences entre bandes rivales qui se déroulent pour la plupart en Île-de-France. Alors, des violences qui sont provoquées par des mineurs dans 80% des cas. Olivier Dartigol, cette culture de la violence chez les plus jeunes, comment est-ce que vous l'expliquez ?
Le problème, c'est que ce n'est pas véritablement la guerre des boutons avec le braque et petit gibus. C'est-à-dire que les guerres de territoire et de bandes, elles ont toujours existé. Elles sont vieilles comme l'espèce humaine, j'ai envie de dire, sauf que là, les élus des quartiers, les responsables de la police, de la justice, convergent tous pour un même constat, un rajeunissement spectaculaire, doublé d'une violence qui l'est tout autant.
Ouais.
Et donc ça met nos politiques publiques dans une forme de difficulté pour y répondre à la juste mesure, tant sur la prévention que sur la sanction. Mmh. Et donc, il y a très certainement une réflexion à avoir sur la manière d'y répondre au niveau local, au niveau national. Et en tout cas, ces faits de société sont là, on les commente. Et on est un peu aujourd'hui dans un entre-deux, on ne sait pas trop comment faire.
Mais on les commente et on est souvent impuissant face à cette violence inouïe, insupportable, intolérable. De plus en plus compliqué de les interpeller, Gérard Carrérou, d'autant qu'ils sont souvent vêtus de noir, encagoulés. On l'a vu du côté de Viry-Châtillon notamment, c'était complexe.
Oui, c'est difficile, mais simplement, je veux revenir sur le chiffre lui-même. À 7h du matin, j'écoute Europe et j'entends les violences ont augmenté de 8%. J'ai pas été surpris. Ouais. Je me suis même dit, c'est seulement 8%. Parce que, eu égard à ce qu'on entend tous les jours,
on parle de janvier, février, mars 2024.
La multiplicité un peu partout en France de ces violences, etc. et frappant des jeunes, toujours autour maintenant. L'âge pivot, c'est 14-15 ans. Hein. Mmh. Souvent en dessous même. Et plus souvent en dessous qu'au-dessus. Et deuxièmement, alors vous dites, est-ce que c'est facile? Évidemment, c'est très difficile. Parce que c'est une violence qui est répandue dans, on peut dire, des centaines de quartiers. Elle est l'écho de la vie d'une centaine de quartiers. Pas tous les quartiers, mais beaucoup de quartiers.
Et alors, l'Essonne, pour le coup, arrive en tête. Hein,
bien sûr,
en Île-de-France.
J'ai noté que dans l'étude, la région parisienne se fait la part du lion. L'Essonne, mais les autres départements de la cour, ce qu'on appelait autrefois la couronne parisienne. Donc, c'est d'autant plus difficile. Bon, ça veut dire qu'il faut centrer la répression, puisqu'il faut bien parler de répression quand il y a des violences de cet acabit, et la répression, elle doit commencer à partir de là où sont les foyers, c'est-à-dire l'école.
Alors
les foyers sont dans les écoles.
Vous parlez de la répression, Gérard Carrérou.
La répression, c'est-à-dire les moyens de la traiter.
Au moment où un adolescent meurt, on entend Nicole Belloubet proposer l'interdiction des portables au collège en les obligeant, les collégiens, à déposer ces portables dans des boîtes à l'entrée des établissements.
C'est dommage parce que la question des écrans et des portables est un vrai beau sujet qu'il faudrait réfléchir.
Mais est-ce que c'est la réponse qu'on attend aujourd'hui ?
Le timing
aujourd'hui
est catastrophique, c'est-à-dire c'est un sujet intéressant sur lequel on a besoin de réfléchir, mais c'est tout simplement à côté de la plaque. Mmh. On n'attend pas de la ministre de tutelle de l'Éducation nationale, après un tel drame qui déchire le pays tout entier. Les gens, ils parlent de quoi le matin, qu'elle se retrouve, ils parlent de ça, de cette actualité. Et donc, ce type d'annonce juste derrière donne le sentiment vraiment qu'il y a une diversion, qu'on essaie de sortir un sujet pour le faire commenter, pour parler
une pause numérique.
Chose. Or, ça n'est pas la question. Et la responsabilité dans ce moment-là, c'est ne pas se défausser. C'est regarder le réel tel qu'il est et agir dessus. C'est ça, on fait l'activité politique. Mmh. Et donc, la communication de Nicole Belloubet, à minima, elle n'est pas ajustée. Au pire, elle est choquante.
Mauvaise pioche pour Nicole Belloubet sur ce coup-là, Gérard Carrère.
Oui, c'est pas la première. Les réponses gouvernementales à ces problèmes majeurs de la société sont dérisoires. Un coup, c'est Madame Belloubet qui nous annonce les opérations Flash. Ah, j'enverrai tout de suite la brigade Flash, l'inspecteur Flash pour aller voir.
Flash Gordon.
C'est un peu se moquer du monde par rapport au problème. Et là, c'est du même acabit. Mais c'est pas seulement là. Quand on a un problème majeur de l'hôpital, où on vient d'avoir un brancardier, les pauvres gens, les brancardiers, c'est le lumpen prolétariat à l'hôpital. Oui, moi, je vais souvent à l'hôpital et je vois ce sont souvent des gens mal payés qui font des boules terribles. Et on s'en prend à eux. Et quand je vois qu'on répond à ça, on répond à la crise de l'hôpital et à la violence à l'hôpital par 5 euros de plus si vous ratez le rendez-vous.
Vraiment,
ce sont des réponses qui montrent que le gouvernement n'est plus en prise sur le réel de la société.
Ce qu'on paye cash, c'est le fait que la communication en politique a remplacé, mais ça fonctionne comme ça, de l'info, des réseaux sociaux, le fait d'agir. Quand est-ce que véritablement dans notre pays, on a identifié un problème sérieux et les décisions prises ont amené à une transformation radicale et pérenne ? C'est-à-dire que la solution a été apportée. Mmh. On ne l'a pas sur l'hôpital. On ne l'a pas sur l'éducation, on ne l'a pas sur la sécurité. C'est ce qui crée d'ailleurs la défiance, un niveau de défiance très très élevé dans la politique. Parce que ça apparaît aujourd'hui comme un monde parallèle qui a sa propre actualité, mais qui n'agit plus sur la vie quotidienne et le réel. Mmh. Ça, c'est terrible.
On va en continuer à parler de cette violence avec la piste d'un crime d'honneur. Si, ça paraît archaïque et pourtant c'est vrai. Des frères qui souhaitaient laver l'honneur et la réputation de leur sœur, ce serait la piste privilégiée par les enquêteurs suite au tabassage à mort de cet adolescent de 15 ans à Viry-Châtillon. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Il est 13h28, bon début d'après-midi avec Céline Géraud sur Europe 1.
Europe 1. Le journal permanent.
À 13h31 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud.
À Grenoble, après l'arrestation du violeur à la trottinette, le suspect a avoué un des viols reprochés. Il s'agit d'un homme de 22 ans, confondu par son ADN. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison. Un homme de 24 ans, connu pour trafic de drogue, a été tué par balle au cœur de Marseille la nuit dernière. Il s'agit du second narcomicide depuis le début de l'année, selon le parquet. Dans le Nord, un homme de la mouvance des citoyens souverains, bientôt jugé pour un refus de contrôle. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit un automobiliste refuser de se soumettre à un contrôle de gendarmerie dans le Nord en arguant que les lois françaises ne le concernent pas. Il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Djamila Absaoui, toujours en garde à vue aujourd'hui. La maire d'Avallon dans l'Yonne est entendue après la découverte d'au moins 70 kilos de résine de cannabis à son domicile, au sein de l'hôtel de ville et dans la pharmacie où travaille l'élu. Une vingtaine de lingots d'or et 7000 euros en espèces ont aussi été retrouvés. L'édile ne dit pas connaître la provenance de cette drogue. Un incendie dimanche soir dans un appartement d'un immeuble de 8 étages du 11e arrondissement de Paris a fait 3 morts. 66 sapeurs-pompiers ont été engagés pour éteindre les flammes. Une enquête pénale a été ouverte pour destruction par incendie ou moyen dangereux et homicide involontaire. Enfin, la Seine-Maritime et l'heure placée en vigilance orange crue par Météo France. Un phénomène lié au fort coefficient de marée et à des débits élevés déjà constatés sur la Seine, y compris à Paris.
Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous Céline Giraud et aujourd'hui entourée d'Olivier Dartigol, chroniqueur politique, et le journaliste Gérard Carrérou.
Et on parle maintenant de cette piste d'un crime d'honneur à Viry-Châtillon. C'est désormais la piste qui est étudiée par les enquêteurs, des frères qui souhaitaient laver l'honneur et la réputation de leur sœur, de leur famille. Olivier Dartigol, tu es un garçon avec la lequel la sœur correspondait par texto.
J'aimerais pas que cette expression fasse florès. Vous la reprenez Céline, parce que on l'a lu ce matin dans les journaux, elle est dans le paysage.
Oui.
Mais c'est absolument pas un crime d'honneur.
Pour vous, c'est quoi? C'est un
assassinat? C'est un crime du déshonneur, c'est un crime de la lâcheté. Ce sont des personnes qui vont massacrer un jeune adolescent cagoulé.
Le mobile, en tout cas, vers lequel on se dirige, c'est celui-là.
Déjà, les mots sont c'est déshonneur, c'est la lâcheté. Et puis après, c'est donc, nous verrons ce que dit l'enquête. Mais au regard des éléments qui sont rassemblés aujourd'hui dans la presse, ce que nous avons appris, c'est le fait que ces jeunes ados ne puissent pas vivre comme ils l'entendent et s'aimer comme ils l'entendent, les premiers amours d'adolescence. Mmh.
15 ans, on le rappelle, un échange de textos.
Et là, dire au nom de lois qui ne sont pas les nôtres, qui sont des lois communautaires, pour ne pas dire intégristes, d'un rigorisme peut-être. Il faut voir si on a d'autres éléments. Mmh. Ça fait bien sûr penser à l'affaire
Namila.
Oui, puis à trop d'affaires. Mmh. Donc il faut avoir les éléments d'enquête. En tout cas, c'est quelque chose qui est terrifiant, dans le sens où c'est un jeune qui, en plus, on a beaucoup de portraits de lui. Mmh. Et on voit son amour de vivre, sa gentillesse, le fait qu'il était très bien intégré dans son école, dans sa famille, que c'était un peu le bout en train. Mmh. C'est celui qui, même dans des situations très difficiles, allait chercher du positif. Mmh. Bon, et il s'est fait massacrer.
Massacrer, c'est un crime barbare, on peut le dire. Gérard Carrérou, sur cette piste du crime d'honneur, je le disais, qui semble un peu archaïque, un peu désuet.
Je ne peux pas supporter, je n'accepte pas, comme Olivier, j'accepte pas cette idée de crime d'honneur.
Pourquoi ?
Parce que l'honneur, ça compte. Et encore beaucoup de gens pour qui l'honneur, ça compte. Et puis ça rappelle d'autres sociétés dans lesquelles il y avait un sens de l'honneur.
Lesquelles ?
Mais appliquer le duel, par exemple, entre deux chevaliers dans les histoires, les belles histoires d'autrefois, c'était un crime d'honneur. Là, ça n'a rien à voir avec un crime d'honneur. C'est une invention. Je crois que c'est le Figaro le premier qui en a parlé.
Ça permet
à la classe médiatique, dont je fais partie, comme vous, ça nous permet de faire un échappatoire à la réalité vraie. Mmh. Et la réalité vraie, c'est quoi? C'est non seulement ce n'est pas un crime d'honneur, mais c'est très exactement quoi? C'est un crime du patriarcat islamique. Mmh. Pourquoi? Il s'agit de quoi? Ramenons à l'essentiel. Une jeune fille et un jeune homme. Ils s'aiment bien, ils se parlent à travers
des échanges d'SMS,
même pas de vive voix. Et là, on dit attention, si tu continues à lui parler, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et ça va arriver et on le tue.
Mmh, c'est ça. Dégénère.
Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que dans certains quartiers, dans certains endroits de notre France, notre belle France qui fut autrefois effectivement chevaleresque et parfois connue l'honneur, on nous fait maintenant le coup de la charia, parce que c'est la morale islamique. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. C'est exactement ça la base. Mmh. Il n'y a plus de corps. Le prédateur, qui est, ou le père, ou le grand frère, ou la famille, ou le clan, c'est pareil. C'est un retour à l'obscurantiste, c'est contraire aux valeurs de la République française, et d'ailleurs, le crime d'honneur n'existe pas dans le droit pénal français. Donc, il faut arrêter absolument d'urgence d'en parler.
On a un auditeur qui souhaite réagir. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous nous écoutez à Rennes, et c'est un sujet qui vous a fait réagir.
Énormément, oui, ça fait réagir beaucoup de gens, c'est clair. Mais c'est vrai que ça fait peur. J'ai une fille de 14 ans, elle vit dans un monde, elle grandit dans un monde qui évolue, mais de façon négative. Moi, je me rends compte que ce changement en France, et notamment à Rennes, il y a l'avant et l'après. Rennes a notamment tous les problèmes évoqués juste avant, on le sent de plus en plus. Il y a une islamisation énorme qui n'existait pas avant. Moi, j'ai des amis et j'ai de la famille, de la belle famille, musulmane qui ne se retrouve pas non plus dans ce qui se passe aujourd'hui. J'ai la chance énorme d'avec mon travail de voyager énormément dans des pays arabes également où tout ça ne se passe pas du tout comme en France, ça n'existe pas. J'ai un ami qui est marié avec une iranienne, ça n'existe pas, ce genre de cas de figure. Bref, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France, quelques pays dont la France, où ces problèmes, cette catastrophe est en nette augmentation. Et c'est catastrophique. Après, on s'étonne que beaucoup de Français, dont moi et mon ami, on envisage de quitter la France parce qu'on ne s'y retrouve plus. Et franchement, pour être honnête, je ne suis pas à l'aise, j'ai peur.
C'est quoi l'insécurité qui vous ferait partir? La montée de l'insécurité?
Tout à fait. Pour moi, pour ma famille, pour ma fille. Personnellement, j'étais victime d'un acte raciste à Nantes il y a 2 ans, parce que je suis un blanc. J'ai été protégé par des gérants d'un kebab où ça s'est passé. Ça n'existait pas, ça. Et encore, moi, je viens du milieu de nuit. Moi, quand j'avais 20 ans, je travaillais, je vivais dans la nuit, bar, discothèque. Il y avait des soucis, bien évidemment.
Bien sûr.
C'était pas ce point-là. Comme je vous le disais, grâce à ma vie et ma vie professionnelle, et à ma passion, je voyage énormément dans plein de pays du monde. Mais je peux vous garantir que c'est le jour et la nuit. Tous les pays ont leurs petits soucis, entre guillemets, mais proportionnellement par rapport à ce qui se passe actuellement en France, la France est gangrénée. C'est un mot grave et dur à expliquer. Mais mes amis qui ne voyagent pas à Rennes ne voient pas les choses comme ça. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont comme un déni de la réalité. Et c'est dommage, quoi. C'est catastrophique et c'est dommage.
Merci beaucoup Stéphane, on entend cette montée de l'insécurité pour ce témoignage qui vous fait réagir, je le vois.
Toutes les enquêtes d'opinion convergent sur l'idée que dans les principales préoccupations des Français aujourd'hui, il y a le pouvoir d'achat très haut et après la santé, la sécurité et l'éducation. C'est un vrai sujet, d'autant plus que les personnes les plus confrontées à l'insécurité sont souvent aussi les personnes qui vivent dans des milieux les plus défavorisés. C'est là où la situation est la plus détériorée. C'est comme une sorte de double peine. Déjà, vous avez des difficultés économiques, mais en plus, vous ne pouvez pas rentrer chez vous le soir sans être interpellé par le deal de drogue ou par l'insulte. Mais nous ne sommes pas sans solution et sans réponse. C'est-à-dire notre société dispose de potentialités encore extraordinaires pour y faire face. Encore faut-il les mobiliser.
Alors, on a beaucoup parlé à l'époque de l'affaire Mila, qui avait été jugée aussi de façon exemplaire. Mila, qui évoquait ce matin, chez nos confrères de RMC, l'idée de l'existence d'une police des mœurs.
Mais c'est exactement ça.
Voilà.
Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à Montpellier. On dit cette jeune fille, elle se maquillait, elle portait des robes. Vous entendez cette expression de la maman ? Elle était vêtue à l'occidental. Mais attendez, où on est? On n'est pas en Occident ici. La France, c'est où? On n'est pas à l'autre bout du monde. Qu'une jeune fille de 14 ans ait envie de se mettre un peu de rouge à lèvres parce qu'elle a 14 ans et qu'elle sent un petit peu, elle a envie d'être belle et qu'elle porte une petite robe, etc. C'est un crime?
Donc pour vous, l'existence de cette fameuse police des mœurs qui existerait
Elle existe dans certains quartiers. Mais simplement, on ne veut pas le dire.
Oui.
Elle existe dans les quartiers, dans les cités. Et la meilleure preuve qu'on ne veut pas le dire, je vais mettre les choses sur la table. Est-ce qu'on a, depuis ce qui est arrivé, les noms des 4 personnes qui ont été, actuellement en prison, les 2 autres
en garde à vue, pour l'équivalent assassinat.
Est-ce qu'on a des noms? Est-ce qu'ils s'appellent effectivement Kevin ou Matteo? Est-ce qu'ils s'appellent Fred ou Nicole? Ce sont, bien évidemment, et vous le verrez, ce sont malheureusement des enfants issus de l'immigration. Il y a un moment donné, il va falloir...
Oui, mais attention.
C'est
Olivier d'Artigol.
Olivier, je connais... J'ai du respect pour ce que tu penses. Mais là, ne pas dire les choses, c'est pire que tout. Parce que toute la France le sait que ce sont des enfants ou afghans ou d'une autre, en tout cas d'une autre communauté.
Mon consiste à simplement rappeler une chose. La jeune Samara... C'est une jeune de confession musulmane.
Oui, mais souvent, les musulmans sont
intégrés,
frappés.
Assimilés,
le problème, posons-le, le plus souvent, ce rigorisme, ce fondamentalisme islamiste, les premières victimes, c'est bien souvent des personnes de la communauté.
Tout à fait.
Et notamment les filles, et notamment des quartiers populaires, qui n'ont pas le droit à l'émancipation. à pouvoir vivre, s'habiller, aimer qui elle le souhaite.
Et comme dans les pays arabes.
Et il faut bien poser le problème. Au sein d'une même religion, il y a donc deux conceptions radicalement opposées. Une conception très majoritaire dans notre pays, qui est un islam tolérant, compatible avec notre république, qui ne pose problème à personne, et ça a longtemps fonctionné comme ça, et une minorité extrêmement active, extrêmement agissante, qui fait de l'entrisme, notamment aujourd'hui dans le monde éducatif et scolaire, pour essayer de créer un climat de terreur.
Oui, mais Olivier, on n'entend jamais la communauté qui effectivement se comporte avec effectivement le respect dont tu nous parlais en début, qui est majoritaire, je le crois encore, malgré tout, je le crois encore, et la minorité fait la loi. Et c'est la minorité qui tue, et c'est la minorité qui fait la loi. Et on n'entend pas un imam pour dire, certains, effectivement, pour
celui de Bordeaux, attendez, celui
toujours les mêmes, il y en a deux ou trois en France, courageux, protégés par la police, et puis les autres se taisent.
C'est vrai.
13h44, on reste ensemble évidemment, Olivier D'Artigol, Gérard Carreiro. Dans quelques instants, on va revenir sur cette découverte stupéfiante, c'est le cas de le dire, de la drogue saisie au domicile de Djamila Absaoui, la maire d'hiver gauche d'Avallon. C'est dans Lyon, à tout de suite sur Europe 1.
13h14, Céline Giraud vous informe sur Europe 1. 13h46 sur Europe 1, Europe 1 13h, la suite avec vous Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, Olivier D'Artigol et Gérard Carreiro.
Et je vous parle maintenant avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, aussi 01 80 20 39 21, appelez-nous, de cette découverte pour le moins spectaculaire lors d'une série de perquisitions dans Lyon. Les gendarmes ont saisi 70 kilos de cannabis au domicile de Djamila Absaoui, c'est la maire d'hiver gauche d'Avallon, une commune de 6500 habitants. Une enquête devra déterminer maintenant le degré d'implication de la maire dans ce trafic. En attendant, Olivier D'Artigol, une élue de la République, maire d'Avallon, qui est maire d'Avallon, je le précise, depuis mars 2021, en garde à vue, ça fait tâche. Hein.
C'est ballot. 70 kilos de cannabis, des lingots d'or. Alors avec toute une fratrie, puisque il y a 7 personnes qui ont été interpellées, donc deux frères de l'élu. L'un d'entre eux sortait d'une peine de 10 ans de prison. Bon, on peut dire... défavorablement, selon la formule consacrée connue par les services de police. Mais nous verrons les éléments de l'enquête aujourd'hui, parce qu'il y a une présomption d'innocence qui est importante.
Bien sûr.
L'élu dit qu'elle ne résidait pas dans cette habitation, et donc qu'elle est étrangère aux faits qui commencent à être précisé au vu de l'évolution de l'enquête judiciaire.
Mais est-ce que cette affaire ne traduit pas aussi, Gérard Carreiro, quelque part la pression exercée sur les maires, la difficulté c'est le maillon fragile de l'autorité de l'État?
Les maires, ils sont soumis à toutes les pressions, effectivement. Je les plains souvent. Mais là, c'est un maire particulier, effectivement. Et je ne veux pas retomber dans la discussion précédente. Cette femme est d'une famille d'origine, effectivement, maghrébine. Mais c'est
préparatrice en pharmacie.
Oui, donc il y a une partie de la famille, comme on dit, qui a réussi, qui s'en est très bien sortie, et elle traîne. Et là, je voudrais dire quelque chose pour la défendre. Parce qu'il y a beaucoup de cas, aussi bien d'ailleurs pour les familles du subsaharienne, qui sont donc africaines, d'origine subsaharienne, ou pour les gens d'Afrique du Nord, il y a souvent une difficulté, quand il y a des grandes fratries, arriver à dégager le bon grain de livret. Parce que quand on voit ses frères et sœurs qui sont effectivement engagés dans les trafics de drogue, dans telle ou telle activité effectivement répréhensible, c'est très difficile de les condamner, de se mettre à part. Là, moi, je plaide pour que cette femme, je pense... Alors, peut-être qu'elle a prêté sa maison, et peut-être qu'elle a fait... peut-être qu'elle se disait, peut-être qu'ils font pas des trucs très catholiques, mais je plaide pour la bonne foi de cette mairesse.
Oui, c'est ce qu'il faut faire à ce stade-là. Et en rappelant deux choses, les élus de la République sont, pour le coup, le plus souvent, le dernier maillon. Celui sur lequel repose... les dernières réponses locales, au plus près, vous allez voir qu'il y aura une grosse crise de vocation pour la prochaine élection municipale.
Ah, vous croyez ?
Parce que oui, beaucoup ne veulent pas y retourner, parce que par-delà la complexification des normes administratives, il y a aussi un épuisement de ces maires locaux qui prennent en pleine face tout ce qui ne va pas dans notre société, tout ce qui fait cocotte minute, notamment le fait que plus personne ne supporte personne et que c'est tout le monde est dans son compte à soi, tout pour ma gueule, hein, pour reprendre l'expression. Mais ces élus font preuve d'un courage immense parce qu'ils ont peu de moyens, souvent ils sont toujours en activité professionnelle, ils donnent de leur temps libre. Là je vous parle pour les élus, là c'est une commune de 6000 habitants, donc il faudra réfléchir au statut d'élu. Et puis il y a aussi... venant de la génération issue des vagues d'immigration, ça a pu donner de remarquables élus pour notre République, que ce soit au niveau parlementaire ou au niveau local.
Allez, 13h50, on est ensemble jusqu'à 14h. On va maintenant parler de tout autre chose. C'est une vidéo qui n'a, je l'imagine, pas échappé à votre vigilance. Vidéo qui est devenue virale en une journée. On y voit un couple refusant d'obtempérer lors d'un contrôle d'alcoolémie. Ils expliquent ne pas contracter avec l'entreprise Présidence France.
Non, je ne contracte pas.
On parle là de complotistes des citoyens souverains. Écoutez.
C'est Pierre, de la famille Legrand par lui dire. Alors sachez que le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi, et c'est qu'un arrêté depuis 1922, non signé dans le journal officiel du Code civil français. Je n'appartiens plus à l'entreprise République française Présidence. C'est une société depuis 1947. Et vous, vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Gaines & Brass Street qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français.
Et pour quelle raison que non, non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture.
À la voiture.
Là, vous êtes filmé.
C'est une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur.
Non.
Vous ne touchez
vous
pas la
voiture. Vous n'avez pas à toucher la voiture.
Vous êtes du parquet, donc vous êtes placé au garde à vue.
Non.
Mais non,
ne contracte pas.
Voilà, je ne contracte pas. Cette formule, évidemment, a été détournée. Une formule de la mouvance complotiste, donc des citoyens souverains. Alors, derrière ce jargon totalement... crypté, on peut le dire. C'est une mouvance qui vient des États-Unis au relant alors antisémite, complotiste, ou des actions alors, parfois violentes.
Je ne connaissais pas. J'ai vu cette vidéo qui devient virale ce matin. Au début, on a le sentiment que c'est presque un sketch.
C'est ça.
On se dit, ils vont s'arrêter. Mais non, nous sommes dans le réel. Eux ne sont plus dans le réel depuis un petit peu de temps maintenant, quand bien même ils ont une culture juridique assez poussée sur deux ou trois choses.
Je n'appartiens plus à l'entreprise République française Présidence. Quoi.
Alors on peut à la fois... c'est à la fois, ça peut faire sourire, mais c'est triste, parce que bon, ça se termine mal pour eux quand même. Il faut quand même dire que quand les gendarmes, quand la police demande, il vaut mieux plutôt contracter avec eux.
75 000 euros d'amende.
Ça va mal se terminer pour eux, mais c'est aussi un exemple aujourd'hui de combien des mouvements sectaires conspirationnistes, parce que c'est ce dont il s'agit, peuvent s'emparer de personnes certainement un peu fragiles.
Gérard Carreiro, c'est une tendance qui est apparue dans les années 70 aux États-Unis.
Oui, mais peu importe. Moi, je dis, c'est la réponse est simple, en tôle. je veux dire, en tôle, oui. Parce que
non,
si on accepte le refus... accepte le refus... c'est le refus de la loi, c'est le refus de la République. Attendez, il y a des milliers de refus d'obtempérer qui conduisent à des morts. Morts de l'un ou de l'autre. Ou la police est amenée à tirer, ou bien ils font des accidents, etc. Moi, je refuse ceux qui refusent d'obtempérer. Et s'ils ne sont pas contents, parce que c'est une secte qui vient des États-Unis, qu'ils aillent vivre aux États-Unis. Ils ne resteront pas longtemps aux États-Unis, que je connais très bien. Ils ne resteront pas longtemps à refuser d'obtempérer à la loi américaine.
Et qu'est-ce que ça dit de notre société, ce type de comportement?
Elle fout le camp,
Oui, bon, après, les mouvements, il y avait une commission parlementaire assez chevronnée là-dessus. Des mouvements de type sectaire ou conspirationnistes, ils ont toujours existé. Là, ils sont éclairés d'une manière un peu saisissante avec cette vidéo qui fait le buzz. Bon, le tout est de savoir si ça se développe beaucoup. Là, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous le donner. Là, ça me semble...
C'est peu développé en France.
Oui.
C'est le mouvement One Nation qui a été confondé par Alice Paz-Zamar.
Je ne le connaissais pas,
C'est une hybridation avec le mouvement Covido-complotiste.
Oui, personne ne connaît ces mouvements. Je pense que même pas la peine de leur faire de la pub.
Voilà, mais on leur fait... Voilà, là on est plus sur des dérives, quoi.
Oui, sur des dérives, et puis aussi sur des personnes, j'ai envie de dire, fragiles. Parce qu'il faut avoir...
Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à se sentir concernés et qui regardent ces vidéos.
Oui, alors après, on a aussi un phénomène aujourd'hui exponentiel concernant les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, quand on est avec ce flot d'images, de commentaires, d'informations ou de fake news, qu'est-ce qui tient du vrai, du faux? Qu'est-ce qui tient... d'une analyse à véritablement un discours totalement délirant. Il y a beaucoup de personnes qui... moi, j'ai des personnes très sensées autour de moi, ou quand je retourne à Pau, au sujet de l'actualité, qui parfois peuvent me dire des choses totalement qui me semblent...
Irrationnelles.
Oui, et à qui je rappelle, non, c'est la réalité, c'est ça. Après, on peut débattre de la réalité, ça chacun a son opinion, mais il y a parfois des gens qui, abreuvés des réseaux sociaux, peuvent partir dans les tours,
Est-ce que quelque part, ils ne trouvent pas aussi de l'écho par rapport à ces personnalités politiques qui se mettent en opposition, qui contestent finalement la légitimité de l'État?
Oui, vous avez parfaitement raison, Céline. Il y a une responsabilité, qu'elle soit politique ou médiatique, de personnes qui, quand elles jouent avec le réel et quand elles poussent trop loin
cet exercice-là, peuvent nourrir ce type de phénomène, bien évidemment.
Gérard Carreau.
Oui, non, la loi, écoutez, il faut être simple. La République, c'est la République, la loi, c'est la loi. Ceux qui ne respectent pas la loi encourent les foudres de la loi, et puis c'est tout. Parce que sinon, on va accepter des gens qui sont au total, je vous dis, ils n'ont pas leur place en France. La France, c'est un pays qui est régi par des lois, un code pénal, des lois de la République, et puis voilà, c'est
la
tout.
La dernière fake news, c'est sur l'affaire Dupont de Ligonnès, des personnes très très sérieuses m'ont dit, mais on t'assure, Olivier, les corps qui ont été retrouvés n'étaient pas le corps de la famille
c'est
de Dupont de Ligonnès.
Thèse développée par la sœur.
Par la sœur.
Qui a quand même réussi à écrire un livre sur ces...
Il y a des personnes qui, suite à cette séquence médiatique qui s'est installée quelques jours, ont véritablement cru que ces cadavres-là n'étaient pas
là, on est vraiment dans la fake
famille.
News. Là,
oui,
on est plus
pour illustrer
sur,
ce qui peut se passer.
Voilà, là, on est dans la défiance de la loi, véritablement.
Encore une fois, sur des failles psychologiques et psychologique, j'allais dire autre chose, mais quand on voit la vidéo, on voit que ces personnages sont totalement
partis ailleurs.
Ils sont
perchés, certes, mais ils disent la France est une entreprise privée et l'État volerait secrètement à ses administrés leur personnalité juridique.
Mais on sent qu'elle récite un bréviaire aussi. Les réponses sont très... c'est une forme de catéchisme. Je ne connaissais pas ce mouvement, mais on sent que les formules, ils sont dans un monde totalement hermétique au réel. Et d'ailleurs, on voit que les fonctionnaires de police ou gendarmes au début se disent, mais c'est quoi?
Bon, en tout cas, c'est devenu viral et je voulais absolument vous entendre là-dessus. Gérard. Merci Gérard Carreau, merci Olivier
D'Artigol.
Vous contractez, vous revenez bien sûr. Je compte sur vous. Merci beaucoup. En tout cas, Europe 1 13h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent chaque jour et qui interviennent et qui réagissent dans l'émission. Et nous, on se retrouve demain, Géraldine, pour de nouvelles aventures.
Entre 13h et 14h, c'était Céline Giraud sur Europe 1. Très bon après-midi avec la suite de votre programme, et notamment Historiquement Vôtre de 15h à 16h avec Stéphane Bern qui du lundi au vendredi vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire, et cet après-midi il nous racontera la véritable histoire de l'escadrille Lafayette des Américains au service de la France. Historiquement Vôtre sur Europe 1 de 15h à 16h juste après On de la Traconte. À tout de suite sur Europe 1.